quand j'ai dit que j'ai aucune implication, je suis innocent, il me croit pas. Il me raconte autre chose. Quand j'ai dit des propos à décharge, il me croit pas non plus. Dès le début, on m'a accusé de certaines choses. Et je sentais que j'étais comme tétanisé au niveau des émotions.
Bonsoir. L'argent. L'argent qui rend fou et pousse au crime. Est-ce donc l'argent qui a entraîné François Légeret à la Noël 2006 à commettre l'irréparable? La justice suisse en est convaincue. Elle a condamné par deux fois cet homme pour un triple crime, celui de sa mère adoptive, une amie de celle-ci, ainsi que sa sœur dont le corps n'a jamais été retrouvé. Deux cadavres et une disparue. Un massacre perpétré sans témoin dans le huis clos d'une villa située sur les hauteurs du lac Léman dans la ville de Vevey. Une enquête qui va faire surgir une histoire familiale pétrie de rancœur, de suspicion et de faux-semblants. Dans ce théâtre d'ombre, François Légeret, le fils adoptif, va concentrer tous les soupçons avant d'être condamné à la prison à vie. Mais est-ce bien lui, cet homme qui aujourd'hui encore continue de clamer son innocence, qui a tué les trois femmes? Quelles sont les preuves contre lui? Et pourquoi les mortes ont-elles été aperçues après le crime? Autant de questions posées à nos invités sur cette étrange affaire Légeret, une histoire qui joue à cache-cache avec la vérité, une énigme suisse où l'heure exacte du crime n'a jamais été aussi capitale.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'affaire Légeret en Suisse à l'hiver 2006, juste après les fêtes de Noël, une découverte morbide derrière les portes verrouillées et les volets clos d'une villa tout aussi discrète que cossue. Ce 4 janvier 2006, Domenico Orlando arrive au numéro 26 du sentier des Rurettes à Vevey, commune huppée et paisible sur les rives du Léman. Le jardinier de Ruth Légeret, une richissime veuve, vient déblayer la neige tombée en abondance entre la Noël et le jour de l'an. Le parc de 3000 mètres carrés avec vue sur le Léman est un tapis blanc. Le jardinier est intrigué par la boîte aux lettres qui déborde des journaux qui n'ont pas été ramassés. Également surpris de ne pas entendre les deux chiens aboyer. La voiture de Madame Légeret est là, mais les stores sont tirés. Domenico Orlando frappe à la porte, mais personne ne répond. La société de sécurité est alertée. Le jardinier, accompagné d'un vigile qui a un double des clés, pénètre dans une demeure plongée dans l'obscurité. Ils sont accueillis par un chien affamé qui ne tient plus sur ses pattes. Le deuxième chien, lui, est mort de soif et de faim dans la chambre de la maîtresse de maison. Dans la cuisine, la vaisselle n'a pas été faite, des aliments, du pain, de la confiture sont restés sur la table, des fruits sont pourris, les deux hommes poussent une porte qui donne sur l'étroit escalier qui mène à la chaufferie, une odeur pestilentielle remonte soudain du bas des marches, il y a là deux corps allongés face contre terre, les corps de deux vieilles dames, elles semblent avoir fait une chute mortelle. La police du canton de Vaud est rapidement sur place. Les victimes facilement identifiées, Ruth Légeret, 81 ans, la propriétaire de la maison, et Marina Studer, 80 ans, une amie baloise d'origine péruvienne venue passer les fêtes de Noël à Vevey. Manque à l'appel Marie-Josée Légeret, 56 ans, la fille de Ruth, une célibataire qui habite avec sa mère dans la maison. Absence inexplicable, les papiers de Marie-Josée, son téléphone, son portefeuille sont restés sur place. Les deux corps sont en état de décomposition avancée, ils portent des ecchymoses. Le légiste détecte des côtes fracturées. Ruth Légeret tient au creux de sa main droite une touffe de cheveux. Des gouttes de sang sont visibles, le passage d'un produit chimique, le Blue Star, va révéler des traces de sang bien plus abondantes. Rien n'a été volé, à l'exception d'un lourd bougeoir. Crime, accident, bagarre tragique, les enquêteurs ne se prononcent pas. Ruth Légeret avait deux fils qui habitent dans le coin, Jean-Marc, un architecte qui avait repris le bureau d'études de son père Charles, un puissant promoteur, et François, adopté en Inde quand il avait 9 ans. Ce dernier vit dans un luxueux chalet où il élève des animaux. Les policiers de Vevey et leurs collègues de Lausanne vont se tourner vers les fils de la propriétaire de la villa. Va alors se dessiner les contours d'une sombre histoire familiale dans laquelle l'argent joue les premiers rôles. Dans les heures qui suivent la découverte des corps dans la villa de Vevey, les policiers ont la lourde charge d'aller prévenir les deux fils de Ruth Légeret. Même si les enquêteurs privilégient clairement l'hypothèse criminelle, ils vont rester évasifs et discrets. Jean-Marc, architecte, habite tout à côté. Quand les policiers l'informent du drame, il ne marque pas vraiment de réaction de surprise. Malgré la gravité des faits, il n'a pas, semble-t-il, l'intention de se déplacer au numéro 26 du sentier des Rurettes. Il explique sans détour qu'il est fâché depuis longtemps avec sa mère et sa sœur. 12 ans qu'ils ne se sont pas adressés la parole. Tout cela à cause du partage de l'héritage mirobolant de son père, Charles Légeret, décédé en 1990 et propriétaire d'une fortune immobilière. Pas d'accord possible sur l'héritage. Il a donc préféré prendre sa part, même réduite, et couper définitivement les ponts avec une famille dont il ne voulait plus entendre parler. Le témoin n'est pas étonné de ce qui vient de se passer. Selon lui, sa sœur était dépressive et sa mère sous calmant. Jean-Marc Légeret détaille son emploi du temps des derniers 15 jours. Tout est vérifié. Le fils aîné dit la vérité. Il n'a rien à voir ni de près ni de loin avec ce qui s'est passé dans la villa. Dans le même temps, les policiers se rendent chez le fils cadet, François Légeret, 42 ans. Il habite à une quinzaine de kilomètres, un gros chalet posé sur une colline au mont de Corsier. Une propriété peuplée d'animaux, cheval, âne et même un lama. Les policiers ne trouvent pas François, il dormira, dira-t-il. Il n'est interrogé que le lendemain. Lui aussi semble impassible quand les enquêteurs lui parlent de la découverte des corps. Impossible de savoir si l'homme est sous le choc ou s'il est gagné par l'angoisse. Il raconte qu'il a vu pour la dernière fois sa mère le vendredi 16 décembre. Il l'a retrouvée à son salon de coiffure à Vevey. Ils ont parlé argent. C'est lui qui gère les immeubles. Il touche pour cela 5000 euros par mois. Il lui a demandé une avance de 83 000 euros pour ses projets. La patronne du salon de coiffure confirme cette rencontre. Elle n'a pas noté le moindre incident. Personne n'était en colère ou nerveux. Pour les jours suivants, François est plus hésitant sur son emploi du temps. Les policiers s'intéressent précisément à la journée du 24 décembre, car selon eux, les femmes ont été tuées ce jour-là après 11h. Pourquoi 11h? Eh bien parce qu'à 10h45, Ruth Légeret a discuté avec un postier. Mais quand un autre postier a retoqué à sa porte 20 minutes plus tard, plus aucune réponse. Le téléphone dans la maison a dès lors sonné dans le vide. François indique avoir passé ce 24 décembre dans la famille de sa compagne. Celle-ci confirme, mais précise, que son compagnon s'est ce jour-là fréquemment absenté. Le juge Jean-Pierre Chaton décide de l'entendre. Après 15 heures d'audition, François Légeret quitte libre le cabinet du juge. Pas de poursuite engagée. Le magistrat préfère attendre les résultats de plusieurs expertises, empreintes, traces ADN, analyse des finances de la famille, pour décider de la suite du dossier. Les policiers du canton de Vaud ont exclu la thèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné pour expliquer les morts de Ruth Légeret, de son amie de toujours Marina Studer et de l'absence inquiétante de Marie-Josée Légeret. Ils pensent plutôt à un crime maladroitement mis en scène. Ils en veulent pour preuve la touffe de cheveux découverte dans la main de Ruth Légeret, des cheveux qui appartiennent à sa fille, Marie-Josée, la disparue. Sauf que ses cheveux n'ont pas été arrachés. Ils ont été posés dans la main de la victime pour, de toute évidence, aiguiller les enquêteurs vers la fille. Les experts relèvent encore une trace de chaussure de chantier sur un vêtement. Chaussure qui ne sera jamais identifiée, comme une empreinte de main dans le dos de Marina Studer. Empreinte qui ne parlera pas. Mais surtout, ils trouvent sur le col déchiré de la chemise de nuit que portait Ruth Légeret un ADN mélangé. Le sien et celui de son fils, François. Les constatations bancaires montrent, elles, que François Légeret était criblé de dettes. La famille le menaçait même de lui couper les vivres. Dans des courriers, sa sœur l'accuse d'être cupide, d'avoir trop profité de leur mère. François était-il aux abois? A-t-il voulu tuer tout le monde pour empocher l'héritage? Le 2 février, il est arrêté, inculpé d'assassinat et écroué. Face au juge Chaton, François Légeret se dit étranger à ce double crime et à cette disparition. Le juge multiplie les auditions, le fils adoptif est sous pression. Le 6 février, il donne un tout autre emploi du temps pour la journée du 24 décembre. Oui, Il s'est rendu dans l'après-midi chez sa mère, sentier des Rurettes. Il n'a pas les clés, il a sonné à la porte et indique être tombé sur sa sœur. Elle n'était pas dans son état normal. Elle lui aurait avoué que quelque chose s'était passé. Elle l'aurait alors entraîné vers l'escalier de la chaufferie. François Légeret raconte avoir vu le corps de sa mère au pied des marches, face contre terre. Et dans l'entrebâillement d'une autre pièce, un deuxième corps, celui de Marina Studer. Il aurait aidé sa sœur à mettre les deux cadavres côte à côte pour faire croire à une chute accidentelle. Légeret affirme avoir quitté les lieux sans se retourner, laissant sa sœur régler cette tragédie. Quand le juge lui demandera pourquoi, lui, infirmier de formation, n'a pas cherché à porter secours à sa mère, il indiquera qu'il ne s'en souvient plus. François Légeret semble être dans une impasse. Il dément farouchement avoir tué les trois femmes, mais le juge d'instruction est convaincu du contraire. Le fils cadet ne va donc pas échapper à un procès. Ce 16 juin 2008, François Légeret prend place dans le box des accusés du tout petit tribunal criminel de Vevey. Il porte des cheveux longs et noirs, il paraît abattu, un peu perdu. Le procès va durer 11 jours, l'accusation met en avant les traces ADN retrouvées sur le col de la chemise de nuit de sa mère et sur une paire de ciseaux. Légeret dit avoir dit n'importe quoi sous la pression du juge d'instruction. 45 auditions, il était désorienté. L'accusation dénonce l'appétit financier qui serait insatiable de François Légeret, qui l'aurait poussé à commettre le pire afin de se retrouver seul héritier de la fortune familiale. Son avocat, maître Alain Dubuis, dénonce un dossier vide, aucune preuve solide, juste une construction intellectuelle, la construction d'un coupable. Mais les jurés ne suivent pas. Le 27 juin, Légeret est condamné à la prison à vie. Il est alors incarcéré au pénitencier de Beauchouze. Coup de théâtre. 6 mois après le verdict, une boulangère de Vevey certifie avoir vu le 24 décembre 2006 dans l'après-midi dans sa boutique Route Légeret, sa fille Marie-Josée, ainsi qu'une femme âgée qu'elle ne connaissait pas. C'était vers 17h. Témoignage sérieux. Les certitudes des enquêteurs sont ébranlées. Selon eux, les victimes ont été tuées vers midi. Comment alors ces femmes pouvaient-elles faire leurs courses dans Vevey alors qu'à cette heure-là, elles étaient censées être mortes? Un procès en révision est ordonné, mais il ne change rien. Le doute ne bénéficie pas à l'accusé Légeret. La peine de prison à vie est confirmée en mars 2010. En 2018, une autre habitante de Vevey confirme avoir croisé les victimes dans l'après-midi du 24 décembre. Elle avait eu peur de témoigner jusque-là, puis s'y est résignée. Son témoignage est argumenté, précis, digne de foi, mais ce coup-ci, pas de nouvelle révision. François Légeret a épuisé tous ses recours. Depuis le 31 janvier 2021, il peut théoriquement bénéficier d'une libération conditionnelle. Il continue de clamer son innocence.